Je vais essayer de parler du problème des grandes exploitations au Mexique au 19e siècle, tout en disant que le problème de la modernisation de l'agriculture mexicaine a été analysé selon différents aspects, depuis les travaux pionniers de Sergio de la Peña en 1975 au plus récent d'Enrique Semo en 1998. Ce sujet a été étudié pour montrer que l'hacienda mexicaine était à la base de l'inefficience dans les campagnes mexicaines. Également depuis André Molina Enríquez en 1909 jusqu'à Alan Knight en 1996, cette image d'une hacienda inefficace et traditionnelle fondée sur la pression et le pionnage est le sujet dominant. En effet, dans cette analyse, l'hacienda, le système de la grande propriété, fonctionne selon un mécanisme coercitif et archaïque qui, loin de favoriser la croissance agraire, provoque un retard que seule une transformation violente telle que la révolution peut changer. L'hacienda est alors responsable du retard dans les campagnes mexicaines. Le système de l'hacienda développe une économie plus proche des grandes unités féodales que des exploitations capitalistes modernes. Les grandes synthèses de l'histoire agraire mexicaine transmettent cette idée lorsqu'elles expliquent qu'à la base de la révolution mexicaine se trouve les forts coûts sociaux d'un système d'hacienda qui s'empare des principales ressources au détriment de l'économie des villages et des petits propriétaires. Ainsi, à la veille de la Révolution, l'hacienda accaparait 97% de la terre, tandis que les groupes de propriétés terriennes, une élite de 847 propriétaires, représentaient à peine 3% de la population. Cette constatation a engendré plusieurs façons d'expliquer le fonctionnement des campagnes et la responsabilité de l'hacienda dans la Révolution mexicaine. Dans cet exposé, nous montrerons que cette position, qui a son origine dans le modèle de l'hacienda construit par Andrés Molina Enríquez en 1909, a davantage en créé une représentation erronée des campagnes mexicaines entre les réformes libérales inscrites dans les lois de désamortissement, les leyes de désamortisation de 1856, et la révolution qui se poursuit jusqu'à la seconde décennie du XXe siècle. Cet exposé explore en effet la thèse de l'inefficacité de la grande hacienda due à des propriétaires absents et lâches, des marchés réduits et enfermés, une technologie en retard et un manque d'institutions efficientes pour insérer les campagnes mexicaines dans les voies de la modernisation. Bien que cette caractérisation de l'hacienda soit valable dans quelques régions, nous suggérons ici que le Mexique a subi une importante transformation dans les dernières tiers du 19e siècle, surtout dans les régions d'expansion urbaine et de marchés interconnectés par des systèmes ferroviaires développés durant le Porfiriato. Le Porfiriato, c'est la période entre 1877 et 1911. Dans ces régions, l'hacienda n'est pas une exploitation inefficace. On y trouve une unité productive avec d'importantes avancées technologiques, avec des propriétés intéressées par l'exploitation rationnelle et par les bénéfices commerciaux. Il y aura trois volets dans mon exposé. La première s'occupe du débat général sur l'hacienda au 19e. La deuxième contraste le débat à l'étude des cas de Chalco et la troisième à celui de Morelos. Au 19e siècle, le caractère dual des campagnes mexicaines s'est accentué. D'un côté, l'agriculture d'autosubsistance pratiquée dans la plupart des villages par les petites propriétés. De l'autre, une agriculture commerciale pratiquée dans les haciendas, les plantations et dans quelques fermes. Et en fait, les propriétaires terriens, fermiers et métayers, profitaient d'une agriculture orientée vers les marchés, approvisionnant aussi bien le secteur urbain que les centres miniers et les marchés locaux. L'hacienda joue alors un rôle central. Elle contrôle la majeure partie de la production, la fixation des prix, l'accès au crédit ou aux circuits commerciaux, les ressources productives, etc. Les métayers et les locataires de l'hacienda, d'où émerge parfois la nouvelle classe de fermiers indépendants, apparaissent comme une réponse efficace de l'hacienda aux risques climatiques, aux fluctuations du marché, à l'exploitation des terres marginaux, à la mise en culture de nouvelles terres, à la protection des frontières qui empêchent l'expansion d'autres haciendas. Cette réponse entraîne la formation des clientèles, élément central dans le fonctionnement des systèmes politiques d'anciens régimes. Les fermières ont une orientation clairement commerciale dans quelques zones comme el Bajío, le centre du Mexique, le nord du Guerrero vers la côte, la Sierra Alta d'Hidalgo, etc. Ils sont souvent propriétaires de leurs terres et pratiquent une agriculture fondée sur les systèmes d'aide familiale et sur l'exploitation intensive des espaces cultivables. L'hacienda, c'est une grande propriété, donc c'est plutôt des propriétés de plus de 1000 hectares en gros, en général, même si dans le nord du Mexique, ça va jusqu'à 60 000 hectares, et dans le centre du Mexique, c'est à peine entre 1000 et 10 000 hectares. Par contre, il y avait cette autre agriculture d'autosubsistance, agriculture indigène, qui se pratiquait dans le centre du Mexique autour de Chinampas. Les villages et les secteurs traditionnels de l'agriculture sont moins sensibles aux demandes du marché, comme l'indique Gibson dans l'agriculture du maïs, qui fut l'activité économique la plus vitale des indigènes. L'influence de la tradition était forte et générale. Ils préféraient pratiquer des systèmes de culture qui assuraient l'existence de la communauté et qui permettaient les relations de complémentarité avec les haciendas au lieu de les concurrencer dans les marchés qu'elles dominaient. La plupart des habitants de la communauté parlaient des langues indigènes et avaient gardé des bandes de terre pour maintenir leur forme locale de gouvernement, leur vie religieuse et leur subsistance communale et familiale. Leurs terres, dans le centre du Mexique, étaient en général accaparées par les caciques et les élites locales qui se chargeaient de gouverner. Les membres de la communauté possédaient à peine les terres nécessaires à leur subsistance et devaient chercher un complément en tant que travailleurs saisonniers dans les haciendas. Donc, pour arriver à construire cette image des campagnes mexicaines, nous sommes passés par différentes traditions. Dans la première tradition apparaissent les intellectuels libéraux ou conservateurs de la fin du 19e et du début du 20e, qui voit l'hacienda en lieu de discorde. Pour les libéraux, l'hacienda n'est pas une bonne affaire, c'est une propriété de grande dimension mais inactive, avec des propriétaires absents à l'écart de la modernité et des innovations. Le principal représentant de ce courant-là, c'est Andrés Molina Enríquez, qui écrit cet ouvrage fondamental dans le XXe siècle mexicain, Los grandes problemas nacionales. La communauté, pour eux, est avant tout un espace de relations sociales harmonieuses, de solidarité ethnique et de cohésion, mais aussi d'incapacité pour comprendre la notion de propriété privée, ce qui va entraîner son exploitation par les criollos, les créoles, à vide de terre au moment de désamortissement des communautés. Les fermes, de leur côté, sont l'élément mobile. Entre l'hacienda inactive et la communauté compromise, les fermières représentent le développement de la propriété petite ou moyenne, dont le succès est dû à l'agriculture farmer des États-Unis, le rêve libéral de transformer un pays d'haciendas en un pays de moyens et petits propriétaires, comme les voisins du Nord, s'est cristallisé dans les fermiers. En revanche, les conservateurs défendent le régime d'hacienda et condamnent au contraire les communautés désireuses de s'approprier de l'été productif de l'hacienda. Emilio Rabassa, par exemple, se refuse à accepter trois hypothèses dominantes dans les décennies 1920, celle de la misère agraire, celle de la très mauvaise distribution de la propriété territoriale et celle des dénuements des miséraux. Il soutient que le système de la propriété communale se détériore peu et par conséquent l'hacienda n'est pas responsable de l'absorption des terrains communaux. En revanche, les villages ayant besoin de terres essaient de saisir celles de l'hacienda. Toutefois, ces arguments ne prospèrent pas parce que la révolution mexicaine impose la conception libérale. Entre 1920 et 1960, les études sur les campagnes mexicaines révèlent de façon convaincante que l'hacienda mexicaine était à l'origine de la révolution à cause de ses grands défauts, ainsi que nous le montrent les travaux de Robert Bruns, Brinsmade, Ernest Gruenen, Tannenbaum. En effet, Brinsmade, en 1916, un ingénieur de mine né à New York en 1871 et vivant au Mexique depuis 1911, publie à New York un ouvrage sur les problèmes agraires mexicains. Là, il se fait l'écho de Molina Enríquez et critique le système de l'hacienda fondé sur l'oppression des peons, l'occupation de l'espace et l'injustice des impôts qui frappaient les petits exploitants et non l'hacendado. Gruenen en fait la même chose. Et puis, surtout, Tannenbaum, celui-là, Frank Tannenbaum, qui enseignait à Columbia, New York, il signale que l'hacienda était une exploitation colonialiste qui cherchait à s'emparer de l'espace, des hommes et des marchés. C'est lui le premier qui affirme qu'une élite d'hacendados était propriétaire d'à peu près tout le Mexique. Après lui, George McCush McBride développe la thèse de Molina tout en signalant l'absentéisme des grands propriétaires et le manque de soucis économiques des exploitants. Pour lui, le prestige l'emporte. En Europe, Rettinger, en 1926, est le premier à reprendre la thèse de Molina Il souligne la féodalité des haciendas et leur manque d'intérêt pour une exploitation rationnelle des grands domaines. L'admirable ouvrage de François Chevalier en 1956 arrive aux mêmes conclusions. Et donc, lui, par exemple, lorsqu'on lui a interviewé, il disait justement, je me souvenais bien sûr de l'enseignement de Marc Bloch et de sa vision très large du Moyen-Âge français et européen, ouverte au rapprochement dans le temps et dans l'espace. Ainsi, écrivait-il, par comparaison avec le régime féodal, le régime seigneurial est un type de soumission paysanne très différent de nature, qui prit naissance beaucoup plus tôt, dura beaucoup plus longtemps et fut à travers le monde beaucoup plus répandu. N'y avait-il pas une soumission paysanne par les nouveaux venus maîtres du Mexique? Ne trouvions-nous pas cette soumission dans les encomiendas et haciendas mexicaines? Il est arrivé d'ailleurs à Bloch de citer les haciendas américaines à propos du Moyen-Âge en même temps que de se référer aux villas romaines. On ne s'étonnera donc pas que Marc Bloch et pleinement approuvé mon thème de recherche sur les haciendas mexicaines au XVIe et XVIIe siècle, le 25 septembre 1942, quand je l'ai visité à Bourdem avec l'archiviste de la Creuse. Donc voilà, avec le bouquin de François Chevalier, on peut dire que cette idée qui a commencé en 1909 à travers l'ouvrage de Mourin Enrique, Los grandes problemas nacionales, a pris une reconnaissance en rayonnement international aux États-Unis, en Europe, en France, partout le Mexique. On peut dire que cette idée est vraiment radiée par tout le monde. On doit insérer le rayonnement de cette thèse dans un temps où le Mexique vivait une époque d'apogée, les miracles mexicains, associés à la mise en pratique d'une économie dans laquelle l'hacienda avait finalement disparu. De plus, le pays révolutionnaire était un laboratoire qui attirait beaucoup de spécialistes par l'importance de ces changements, surtout en matière agraire. Plus de 17 millions d'hectares ont été répartis dans les seules périodes cardenistes de 1934 à 1940, c'est-à-dire plus que tout ce qui avait été fait auparavant. Le vieux rêve d'André Molina Enríquez, qui face à la diversité du Mexique en race, langue, coutume, proposait d'ancrer le nationalisme dans un pays de propriétaires, paraissait être apporté grâce à cette réforme agraire. Le miracle économique associé à la réforme agraire rendait crédible la légende noire de l'hacienda inefficace. À la fin de cette période de croissance agraire, vers la fin des années 70, ces visions commencent à se nuancer. Reconsidérer le passé mexicain n'était pas une tâche facile. C'est alors qu'ont surgi des tendances diverses que l'on peut classer avec beaucoup de précautions selon qu'elles sont fonctionnalistes, paternalistes, marxistes ou économistes. Les études fonctionnalistes caractérisent l'hacienda selon la fonction qu'elle occupe dans l'espace. Éleveuses de bétail, céréalières, mixtes et les haciendas plantations, sucriers, caféiers, etc. Dans ce type d'approche domine les monographies qui ne parviennent pas à dépasser l'espace des exploitations et qui se pratiquent durant plus de deux décennies avec des résultats inégaux. En fait, l'étude devait décomposer l'univers de l'hacienda pour analyser finement chacune de ses parties. Le projet cependant ne réussira pas. Sur les plus de 8000 haciendas qui existaient, nous n'avons pas plus d'une centaine d'études qui en analysent le fonctionnement. En réalité, ces approximations serviront davantage à construire des typologies et à identifier les causes du développement qu'accumuler des connaissances susceptibles d'aider à réfuter la légende noire. Les études ensuite qui parlaient de sociabilité, des liens qui soudent le personnel de l'hacienda et du paternalisme du propriétaire terrien, dans le cadre de l'économie morale des sociétés pré-industrielles, ont également eu un poids important comme le montrent les travaux de Nickel, Rendon et Guerra. Pour eux, l'hacienda est plus un territoire d'accord que de conflit. Le péon, en échange de sa liberté, obtient une série de prestations qui lui assurent une meilleure condition que les travailleurs non liés à l'hacienda. L'esphère de cette étude a été circonscrite à la région centrale de Puebla-Tlaxcala et dans la côte de Yucatán. Malgré ces déséquilibres de connaissances, les études inspirées du marxisme ont essayé de faire le point à partir de faibles données peu nombreuses ou de variables macroéconomiques de fiabilité incertaine. Dans le premier cas, l'hacienda a été étudiée selon son articulation au développement du capitalisme, considérant les haciendas traditionnelles, transitionnelles et modernes. Le problème était qu'avec les modèles utilisés, il était impossible d'appliquer les paradigmes galiléens de la quantification. Parler d'une campagne capitaliste à partir de l'étude de quelques haciendas n'avait aucun sens, mais a fourni matière à discussion sur les modes de production durant plus d'une décennie. Les variables macroéconomiques ont alors servi à colorer les vides du tableau. à partir de 1965, avec la publication de séries de statistiques sur l'économie porphyrienne, des chercheurs comme Hansen, Bernock, Solis et Rosenzweig ont mis en évidence que la chute des prix des principales exportations mexicaines, liée aux mauvaises années de récolte, ont été des variables expliquant la révolution. Bien qu'ils s'aient transféré l'origine agraire du mouvement vers le secteur exportation, il est vrai qu'ils ont aussi soulevé les problèmes structurels de l'organisation de l'agriculture autour des haciendas incapables de répondre à la demande interne de nourriture qui requiert la croissance démographique et qui constitue un mécanisme négatif pour le marché du travail en retenant la main d'œuvre en gênant sa mobilité. Les historiens ont réagi différemment face à la constatation du retard dans les campagnes et à son corollaire à la révolution, augmentant le nombre de variables explicatives du mouvement révolutionnaire, déplaçant les causes du retard sur les facteurs institutionnels, élargissant le poids du facteur politique, situant les problèmes paysans dans le cadre régional et ainsi de suite. En effet, une des réponses a été d'augmenter le nombre de variables intervenant dans le mouvement et de souligner, comme le font Frédéric Katz, Alan Knight, John Tutino et John Hart, qu'une série de transformations négatives dans les politiques et l'économie du monde agraire ont provoqué l'explosion révolutionnaire. Une autre réponse était de revoir les séries macroéconomiques, d'insérer les études monographiques dans la discussion sur le retard de l'économie mexicaine et de déplacer l'origine du soulèvement vers d'autres facteurs institutionnels et politiques. Ainsi, John Cosworth, professeur à Harvard University, corrige les statistiques de production agricole de consommation interne publiées par le Colegio de México et donne à entendre que durant le porfiriato, l'hacienda avait bien répondu à la demande interne de nourriture. De plus, l'auteur affirme que si l'on étudie vraiment avec attention les propriétaires terriens, on trouve qu'ils s'étaient très éloignés du propriétaire aristocrate et qu'au contraire, ils étaient ambitieux, investis dans leurs opérations, qui essaie de nouvelles récoltes, de nouvelles méthodes et chercher de nouveaux marchés. L'explication du retard et de la protestation populaire supposait d'étudier les changements institutionnels et l'impact de la construction des chemins de fer, mais pas l'inefficacité de l'hacienda. Le panorama s'élargit et les politiques réapparaissent avec une force surprenante. Pour montrer les bases d'interprétation erronée de l'argument agraire de la révolution, les historiens du politique mentionnent les études régionales et statistiques qui indiquent qu'à la veille de la révolution, les villages de Morelos, autour de la ville de Mexico, on va voir tout ensuite, et de Oaxaca, une région indigène dans la côte pacifique, avaient conservé 60% de leurs terres. En rejetant l'origine agraire du mouvement, de nouvelles thèses ont été proposées, la conséquence du jeu d'acteurs complexe du système politique, où les anciens acteurs rompent le pacte qui les lie au régime et où les acteurs modernes, les nouveaux citoyens suscités par la modernité, s'unissent pour moderniser les politiques et les discours du peuple. Les campagnes mexicaines encadrées par les systèmes d'hacienda n'ont été responsables ni de la révolution ni du retard, ce que paraissent confirmer les études régionales qui modifient les réponses données par les historiens avant ces discussions. Cette histoire régionale remplacer la recherche d'éléments commencés par les monographes, mais d'une manière différente, c'est-à-dire en augmentant le nombre de variables observées. La totalité devait être examinée par partie pour ensuite observer le tout. Ainsi surgissait une série d'études régionales qui avaient l'avantage d'étudier le mosaïque régional dans son ensemble, situant ainsi le monde rural dans le contexte régional.
Donc c'est
le dernier volet de cet aspect de toute l'histoire. Et la géographie de cette histoire régionale a été très variée, mais nous présenterons ici seulement celle qui est en relation avec la croissance des plus importants marchés urbains. Ces choix s'appuient sur le fait que durant le régime porphyriste, donc JRP, entre 1877 et 1911, le modèle de développement français a été adopté au Mexique, instauré dans un nationalisme moderne, cosmopolite et urbain, qui voit dans la nation une construction homogène et occidentalisée, orientée vers les marchés internationaux, réglementés et organisés scientifiquement. Dans ce modèle urbain, il revient aux campagnes d'approvisionner les villes avec leurs excédents et d'accompagner la croissance urbaine avec les produits frais et bon marché. Dans cette logique, là où existait une pression démographique stimulant l'agriculture commerciale, l'hacienda devait s'adapter rapidement en transformant ses espaces et en se chargeant de approvisionner des marchés plus larges. Ceci s'est produit à la ville de Mexico, à Guadalajara, à Monterrey, à Puebla, dans toutes les villes où il y a un dynamisme démographique.
Et donc, c'est dans la deuxième partie de mon exposé que je vais parler justement d'une ville autour de la ville de Mexico, dans cette région de Chalco-Amecameca.
Dans les bassins de Mexico, par exemple à Chalco, réserve traditionnelle de la capitale, la thèse d'une hacienda inefficiente et traditionnelle de Molina Enriquez n'est pas soutenable. Dans cette région, les élites agraires font une transformation à la fin du 19e qui ont été qualifiées, par similitude avec le modèle anglais, de révolution agricole du fait des transformations dans les systèmes de propriété, dans les techniques de culture et dans l'attitude patronale.
Voyons de plus près. Donc voici, ça c'est la région de Chalco-Amecameca, tout autour de la ville de Mexico. Donc je vais parler de ces deux régions-là, Morelos au sud et Chalco-Amecameca dans l'est. La région de Chalco-Amecameca que vous le voyez dans cette carte-là
se trouve dans la partie orientale du bassin de Mexico, étalée sur une superficie de 191 000 hectares vers la fin du 19e siècle. Le paysage est dominé par trois systèmes.
Les lacs, vous voyez le lac justement là, le lac de Chalco,
la vallée et la montagne. Le lac forme un écosystème. Jusqu'en 1900, il était un espace d'eau douce d'environ 10 000 hectares qui côtoyait plusieurs villages.
Il y avait 12 îles, vous voyez, Jico et
Tlapacoya au milieu. On trouvait les sols les plus propres à la culture de céréales dans la vallée. C'était là, entre les lacs et la courbe de niveau de 2300 mètres, que l'on trouvait l'agriculture céréalière la plus avancée de la vallée de Mexico et le meilleur maïs. En effet, Enrique Florescano nous montre comment, depuis l'époque coloniale, les propriétaires agricoles de Chalco jouissent d'un monopole céréalier. Ils utilisent les terres fertiles de la vallée, l'eau des lacs et les transports par les réseaux de canaux, ce qui donne à cette zone des avantages incomparables. Sur les flancs de montagne, les terres cultivables sont moins importantes, mais en échange, les ressources de la forêt deviennent bien convoitées. Là, on trouve les pics du Popocatépetl et Iztaccíhuatl qui couronnent la Sierra Nevada, sans nul doute l'un des plus beaux paysages de tous les hauts
plateaux. Donc voici, ce sont des photos faites par un photographe français
qui est venu au Mexique vers la fin du 19e siècle. Avant lui, on avait toujours fait des photos plutôt en essayant de montrer l'indigène, la tradition. Et lui, il est embauché pour les compagnies ferroviaires. Et donc, il essaie de montrer justement les chemins de traversée des deux chemins de fer et justement la modernisation.
Comme les chemins de fer ont des branches jusqu'à Chalco-Amecameca, il fait ces photos-là qui sont magnifiques, justement.
La Iztaccíhuatl et Popocatépetl. Et dans cette région, la population s'est installée de façon à profiter des conditions géographiques. Nous observons un peuplement concentré dans les terrains
plats, vous voyez
dans cette quartier-là, près du lac, des fleuves et des axes de communication. Cette concentration entraînera de violentes disputes pour s'approprier cet espace.
En revanche, les lacs et la montagne sont très peu peuplés. Donc voilà justement les acteurs de cette dispute pour les ressources, donc les haciendas. Vous voyez une carte de l'hacienda El Moral vers 1890. Donc l'hacienda de San José, vous le voyez
comme une espèce de oiseau.
D'oiseau qui étale elle justement sur la Ciénaga qui est à gauche.
La Ciénaga c'est le lac.
Et de l'autre côté c'est la montagne. Donc
normalement les haciendas essayaient d'occuper les différentes niches écologiques. Donc la plaine, la vallée et le lac et la montagne aussi.
Et donc même on voit justement cet encadrement des haciendas dans la carte de Chalco. Vous voyez la compagnie justement là au milieu avec cette espèce de oiseau. Vous voyez le moral un petit peu en dessous.
Ce sont les haciendas et justement on sait et on voit par la carte que les haciendas et les ranchos sont peu peuplés.
La population rurale, comme on l'avait déjà montré dans la carte antérieure,
voici la population rurale réside en majorité dans les bourgs et les villages.
Et on sait aussi
que les cultures s'étalent sur les plaines et les terres de frichets de collines. Cet espace, vers 1890, était de 77 000 hectares. On pratique ici, depuis plusieurs siècles, un des meilleurs systèmes de culture du maïs. Charles Gibson, par exemple, affirme que pendant l'époque coloniale, l'hacienda la plus développée dans la production du maïs avait été formée à Chalco grâce à des conditions très favorables de sol et de climat. Sur la période porphyriste, cette agriculture demeure la plus productive de l'État. Les haciendas étaient les exploitations les plus productives et les ranchos et les villages suivaient de très loin cette productivité. Dans les districts, on trouve vers 1890 31 haciendas et 15 ranchos qui se partagent les sols les plus fertiles, les plaines près des rivières et des chemins. Les villages, siège d'un peuplement concentré mais dépourvu de terres convoitées par les haciendas, tirent profit des ressources disponibles, leurs communaux, le travail dans les haciendas, la chasse, la pêche, les bois et les commerces au moyen des pirogues et des mulets. En effet, on sait que Chalco était un passage naturel entre les terres chaudes et la ville de Mexico. On y voit donc une circulation intense de marchandises transportées sur les chemins d'eau. Donc, que peut-on dire de ces haciendas?
Si on voit justement cette image de l'hacienda et comment on se dispute l'espace avec les autres localités, par exemple, on voit là trois modalités d'articulation. On voit par exemple la siège du district Chalco au milieu, à côté du lac, et on voit par exemple que les terres de la ville de Chalco étaient siégées par les haciendas San Juan de Dios et l'Archicofradía. On pouvait penser que justement à cause des lois de désamortissement, des lois de désamortisation de 1856, les haciendas avaient phagocyté les terres des communaux de villages comme Chalco. On voit aussi par exemple dans la compagnie qu'il y a deux villages à l'intérieur, San Lucas et San Martín.
Donc clairement les pueblos sont incorporés dans les territoires de l'hacienda.
Et on voit aussi que les haciendas ne peuvent pas s'étendre parce qu'il y a des villages qui en empêchent cette extension. Donc par exemple Atoyac ne peut pas aller au sud parce qu'il y a un village, El Moral et Atoyac au milieu, il y a Tlapala comme village. Donc c'est un espace très convoité, et de ce point de vue, ce qu'ils vont faire les hacendados, c'est pour ne pas avoir des problèmes et des disputes avec les villages.
Ils essaient par exemple d'utiliser d'autres stratégies, parmi eux l'assèchement du lac. Donc le lac apparemment n'appartenait à personne, et donc on va voir cette modernisation à travers le lac. Donc, nous avons montré ci-dessous la structure agraire dans la région de Chalco, caractérisée par les grands domaines, 31 haciendas, les communautés villageoises et les moyens propriétaires, 15 ranchos. Quelles étaient les caractéristiques de l'exploitation menée dans les haciendas? Étaient-elles des grands domaines routiniers ou bien des exploitations modernes? Donc, je vous ai déjà montré
la tradition et les problèmes, l'enjeu que ça se tient à travers ce type
de réponses.
Et je peux vous dire que John
Tutino appartenait à la deuxième courante, à la courante qui parlait d'une modernisation. Dans un bref article, il avait souligné trois faits qui montrent un changement dans l'agriculture de Chalco vers le milieu du 19e siècle. L'introduction de nouvelles semences, l'intérêt pour les engrais et l'utilisation de nouveaux outils. Il soulignait aussi que l'augmentation de la consommation de produits laitiers demandait d'ouvrages d'irrigation. On pourrait penser que c'était encore trop tôt pour introduire ces innovations qui seront les leviers du progrès dans l'agriculture des pays développés, machines, semences et engrais. Ces trois facteurs unis au savoir-faire sont pour quelques-uns des chercheurs les principaux leviers du progrès agricole en Europe. Mais la question étant posée, nous croyons qu'on n'était pas loin d'avoir ces préoccupations à Chalco, puisque nous avons trouvé deux décennies après que les hacendados étaient soucieux de pratiquer ces innovations dans les haciendas. Ces soucis des hacendados, nous l'avons étudié dans plusieurs cas, à l'instar de José Solórzano, qui s'occupe d'acheter des machines agricoles européennes, moissonneuses et batteuses, pour son hacienda de Chalco depuis 1880. Dans ces cas, nous observons que la mentalité patriarcale des hacendados n'est pas opposée à l'innovation, tout au contraire, mais ils veulent savoir de quel côté penche le rapport coût de machine, coût de travailleur. L'Efrén Noriega, propriétaire des haciendas dans le nord du Chalco, font de même. À la fin du siècle, ils ont un capital de 7 millions de pesos. Le peso était à peu près 12 francs 50. Donc 4 millions consacrés aux exploitations agricoles du Chalco et du Tamaulipas. Ils sont le modèle des hacendados entrepreneurs.
Et donc voilà, je vous parle des propriétés qu'ils avaient dans le nord de Chalco. Au milieu, là où il y avait l'île de Xico, ils font construire une hacienda qui s'appelle le Château de Gicot, et voici le, ce type d'hacienda, les bâtiments de ces haciendas qui sont un peu l'inspiration des châteaux européens. Donc au milieu du lac, ils font bâtir cet énorme château et ils vont construire une négociation agricole du capital 3 millions de pesos en, vers la dernière décennie du 19e siècle. Et là, il change les méthodes de culture en faisant venir de l'Espagne l'agronome Mariano Gajón comme directeur technique de culture et de bois de l'hacienda de la compagnie. Gajón introduit dans l'hacienda ce qui suit, un champ de ses 100 000 arbres fruitiers, tout importé d'Europe, d'Espagne et de France principalement, notamment 3 000 abricotiers, 1 000 amandiers, 500 noisetiers, 2 000 cerisiers, 3 000 pruniers, et plus de 100 000 arbres forestiers et enfants de fourrage et de légumes. Il a dû employer toute son expérience dans cette activité. En définitive, nous avons trouvé que dans les haciendas céréalières dans la région de Chalco, notamment les haciendas placées autour du lac et de la vallée, il y a eu une série d'innovations pendant les dernières tiers du siècle. L'idée d'une agriculture rudimentaire n'y tient plus. Au contraire, on voit se dessiner des changements profonds. En effet, dans les haciendas de Chalco, cette innovation se traduit par l'introduction des chemins de fer, par l'utilisation de machines et nouveaux outils agricoles, par les changements de méthodes de culture, par la construction d'ouvrages d'irrigation, par l'installation de nouvelles énergies motrices comme la vapeur et par l'innovation technique dans les moulins. Il faut souligner aussi que les hacendados soutiennent la création d'une école régionale d'agriculture. Cette expérience est unique au Mexique puisqu'il n'existait qu'une autre école régionale et ceci dans les Morelos, c'est-à-dire l'une des régions les plus productives de canne à sucre au niveau mondial. L'école régionale de Chalco ouvre ses portes en 1895 et réalise ses travaux pratiques dans l'hacienda de la compagnie en utilisant les machines modernes de l'hacienda. Voilà donc le levier du progrès agricole dans les bassins du Mexico à la même époque que dans les agricultures les plus modernes du monde.
Donc voici par exemple, c'est une partie des archives de la famille Noriega on peut les consulter aux États-Unis, à Austin, dans les archives de Austin, dans le Texas. Et là, on trouve par exemple les photos de ces haciendas et aussi les livres de comptabilité, de correspondance. Et on voit les leviers justement de ces progrès agricoles, le chemin de fer qui arrivait au siège même de l'hacienda. Il savait des ateliers à côté de ces haciendas. Là, il y a Íñigo Noriega au milieu, justement dans ce chemin de fer qui sillonnait la plaine de Chalco. Et vous voyez les indigènes d'un côté et de l'autre côté les Espagnols. Donc on voit les inventaires de l'hacienda et à partir des inventaires, on voit justement ces innovations qui sont très importantes. Et justement, l'incorporation de nouveaux outils, des semences dans ces cas-là, la lucerne, la culture de la lucerne, justement pour cette association avec les bétails qui va être très important. Et les charrues qui s'étaient utilisées pour la culture du maïs et la culture du blé aussi qui va notamment être favorisée par dans ces haciendas de la famille Noriega. Ce sont des photos de 1892 qui ont été gardées dans ces archives aux États-Unis. Les cultivateurs, même des moissonneuses, des batteuses, il y en avait deux dans les haciendas de la famille Noriega et les ateliers dans l'hacienda. Donc vous voyez les talleres, les ateliers qui étaient justement dans ces haciendas de Gicot et l'association avec l'élevage. On fait importer de la Suisse de l'élevage bovine Holstein que vous voyez justement là et il y a la fabrique pour créer des. Il y a toute une discussion. On dit que les indigènes ne digèrent pas les produits laitiers, donc il fallait les transformer en fromage. Il y avait cette fabrication pour le fromage. Et il y a toute cette modernisation qui s'est faite justement à Sichan, tout le lac de Chalco, qui je vous avais dit. Là, il y a par exemple toute une il y a deux systèmes de pensée qui s'opposent. Donc, pour les indigènes, par exemple, les eaux de lac, ils croyaient que les eaux avaient une circulation souterraine. Donc, ils pensaient justement que le lac n'était pas une source d'infection. Et par contre, ces Espagnols qui ont arrivé connaissaient les cycles atmosphériques des eaux et ils essaient justement de drainer le lac de Chalco en utilisant les arguments hygiénistes, disant bon, si dans le Mexique, à Mexico, il y a autant de morts, c'est justement à cause du lac qui entoure la ville. Il faut drainer ce lac-là pour une raison hygiénique.
Donc, il commence à traîner
le lac de Chalco et là, il construit cette négociation assez importante qui a des revenus d'un million de pesos tous les années et qui sont très importants. Et en définitive, nous avons trouvé que dans ces haciendas, on a toute cette transformation et l'air irrigué. On va voir la construction de 203 km de canaux,
plusieurs
kilomètres pour drainer les eaux. L'assèchement du lac met fin à une relation millénaire entre les hommes et les lacs. Il inaugure l'ère de la crainte hydraulique qui provoquera un siècle de troubles écologiques. Enfin, l'énergie de la vapeur fait fonctionner les moteurs des bateaux et des moulins. Dans la transformation des céréales, on voit l'introduction d'un nouveau système de mouture utilisant les cylindres inventé à Budapest et installé dans la région moulin de l'Hacienda El Moral. Cet ensemble d'innovations que nous avons pu constater dans les haciendas du premier siècle, proche du lac et de la plaine, reflète l'importance que les hacendados accordaient à la modernisation des techniques. Si, comme le dit Joaquín Santiesteban, l'hacendado moderne doit préparer ses champs avec des charrues étrangères, semer avec des appareils, réaliser les travaux de culture avec les machines modernes, procéder à la coupe avec les moissonneuses et accomplir également les battages avec des grands appareils, alors il n'y a pas de doute, les hacendados de Chalco étaient déjà des agriculteurs modernes à la fin du 19e siècle, d'après ce que nous avons décrit jusqu'ici. Face à l'essor d'un marché qui croît avec l'augmentation de la population dans les bassins de Mexico, la ville de Mexico, tout au long du 19e siècle, n'a dépassé les 200 000 habitants. Par contre, dans les porfiriats, tout ça dépasse les 1 million d'habitants. Donc, face à cette croissance, on voit justement l'augmentation de l'innovation technologique comme réponse à la possibilité de nourrir cette population. L'importance de l'innovation est donc très grande et cela nous amène à ne plus admettre que les thèses d'Andrés Molina Enríquez sont valables pour notre échantillon. Enfin, la création d'une école régionale d'agriculture où l'on formerait les administrateurs et le personnel capables de changer les méthodes dans les haciendas, c'est bien ce qui montre que les hacendados sont partisans de l'innovation. En définitive, la représentation de Molina d'une hacienda inefficiente, avec des propriétaires absents et peu intéressés par l'échange, a été la dominante pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce que les propriétaires terriens ouvrent leurs archives et que nous découvrions une réponse bien différente. Les propriétaires n'étaient pas une élite paresseuse, plus intéressés par la domination féodale que par l'agriculture. En réalité, si les prestiges n'étaient jamais éloignés de la possession d'une hacienda, les propriétaires n'étaient pas non plus insensibles au marché. Au contraire, nous avons trouvé que là où surgissent les pressions mercantiles, les propriétaires terriens sont intéressés à rendre leurs haciendas plus productives, soit par des investissements dans les systèmes d'irrigation, par l'introduction d'outils agricoles, par l'incorporation de systèmes de transport comme les chemins de fer et enfin par les changements technologiques. Depuis lors, le monde rural mexicain était un mosaïque varié et on pouvait toujours rencontrer des exceptions qui faussaient le modèle, mais l'analyse régionale que nous avons montrée s'inscrit dans la critique du modèle de Molina Enríquez.
Et le deuxième volet, donc la dernière partie de mon exposé, c'est le Morelos.
Et dans cette région du Morelos
aussi,
nous avons pu vérifier que dans les haciendas de Morelos, à partir de 1880, on assiste à toute une série de changements très importants. D'abord dans les paysages, les traits de ces changements apparaissent
justement dans
cette carte-là. L'espace est aménagé pour les haciendas, les voies de chemin de fer, les rivières, les terres pleines, tout est pris par les exploitations sucrières. Pour les pueblos et les ranchos, il ne reste pas grand-chose.
Même s'ils s'en tirent profit, vous voyez comme les haciendas sont situées dans le côté droit et ils dominent les paysages les plus importants. Par contre, les villages sont refoulés dans la partie nord, dans la partie la plus haute, où l'on ne peut pas matricer l'eau. Et on voit justement comment le chemin de fer suit la formation des haciendas, et ceci par un fait très important. Une fois coupé, la canne à sucre fermente, donc il fallait la distribuer très rapidement, et on fait venir le chemin de fer jusqu'à la porte même des haciendas. Donc on voit comme ces hacendados introduisent le chemin de fer, et justement on voit ce type d'hacienda, par exemple comme l'hacienda de San Gabriel ou l'hacienda de Atlacomulco, qui était propriété de Hernán Cortés. On voit que ce sont des haciendas de 1 000-3 000 hectares, et ils utilisaient, ils exploitaient en fait voilà direct tout simplement cette partie qui était là au milieu, et puisqu'ils n'avaient pas la possibilité d'intégrer des canaux d'irrigation tout autour de l'hacienda, ils laissaient pour les fermiers, pour les métayers, la partie restante de l'hacienda. Mais presque dans toutes les haciendas, on va voir un changement, surtout dans la fabrication de la canne à sucre.
Que nous allons montrer très rapidement ensuite. Dans la production, on observe l'essor de la canne à sucre et du sucre. Ici, on assiste à un changement technique de dimension considérable. Ce changement vers 1910 avait pour le moins révolutionné le processus de la transformation de la canne. Le changement de l'aspect agricole avait été plus limité. Nous pouvons résumer. L'exploitation des terres continuait à être extensive, c'est-à-dire fondée sur l'augmentation de la surface cultivée, des vieilles formes d'organisation du travail et d'instruments agricoles rudimentaires, à l'exception des charrues étrangères qui arrivent en bon nombre à Morelos. La raison en étant que les hacendados disposaient en général de plus de terres dans leurs propriétés qu'ils ne pouvaient en cultiver. Lorsque ce n'était pas le cas, ils avaient recours à l'achat de nouvelles terres ou à l'exploitation des communautés indigènes. Quant aux formes d'organisation du travail, elles reposaient sur les anciennes équipes de capitaines avec les journaliers, les péons. Mais paraît-il, au milieu du 19e, les rapports de salaire s'étaient imposés aux anciennes formes d'endettement par avance ou par salaire en nature. D'autre part, les instruments agricoles les plus utilisés dans les travaux de champ, les couas, la coua, les bâtons à fouir, les pioches, les charrues à traction animale et les machettes, étaient des traditions séculaires. Ce sont les charrues qui ont le plus évolué. On a pu voir des instruments américains à disque, à versoir et dans quelques cas à vapeur. La culture s'est faite comme au siècle précédent, sans une sélection stricte de variétés ni une utilisation importante d'engrais. Les seules variétés de cas qui ont utilisé, c'était la habanera qui venait justement de Cuba et la cristallina. Les travaux de culture étaient pour la plupart manuels, mais on avait développé d'importants ouvrages d'irrigation. La coupe et le chargement de la canne à sucre étaient manuels également à l'aide de machettes et à carriadores. Mais maintenant, les chemins de fer de Coville commençaient à remplacer les anciennes charrettes et dans l'ingénio, dans la fabrique où l'on transformait la canne à sucre, les coups modernes remplaçaient les acarriadores et les charroyeurs. Même si toutes ces activités manuelles occupaient un nombre considérable de travailleurs, les hacendados ne cherchaient pas à épargner la main-d'œuvre ni dans les labors, ni dans la plantation, ni dans les binages, bref, dans aucune des activités agricoles. Ceci est dû au faible coût de la force de travail qui permet au patron une exploitation presque sans frais de culture. Remarquons par exemple le propos du vice-consul de France au Mexique. Il dit « Les frais de culture de la canne sont presque nuls et la plupart des planteurs cultivent leurs terres de façon à rendre l'exploitation continue ou du moins sans arrêt appréciable. » Mais dans l'ingénio, la situation est différente. De l'entrée de la canne, les innovations se succèdent.
Balance, vous voyez ici,
pour peser, croûte pour charrier, bande pour transporter vers le moulin, des modernes trapiches horizontaux pour la mouture, des évaporateurs sous vide pour la cuisson, des centrifugues pour la cristallisation et des formes métalliques pour la purge. L'ancien système qui reposait en bonne partie
sur les savoir-faire, voici l'ancien système
qui reposait en bonne partie sur le savoir-faire du maître de la sucre, maître sucrier, et du purgar, était maintenant remplacé par celui des machines modernes à vapeur
d'un
coup de cas. Dans les activités de l'ingénio qui auparavant étaient menées par des travailleurs spécialisés les mieux payés de l'exploitation, on cherche à économiser la main d'œuvre par l'utilisation des machines. Pour rendre possible tous ces changements, il fallait balayer les anciennes entraves qui signalait dès 1849 Pascual González, gouverneur de l'État du Mexique. L'instabilité des gouvernements, les troubles politiques, l'insécurité permanente, les coûts de transport, ainsi que l'indolente apathie qui peut être à cause de la douceur du climat, constituent les caractères particuliers des Mexicains, disait-il. À partir de 1880, on vit dans le pays une période de stabilité politique associée à une croissance économique. La voie de chemin de fer installée jusqu'aux portes même des haciendas élargissent les marchés. Un groupe d'entrepreneurs liés au commerce s'approprie des haciendas en vue d'en tirer de larges bénéfices. Ces groupes utilisent son pouvoir pour désigner des gouverneurs, introduire des chemins de fer, contrôler les marchés en formant des monopoles et obtenir des gouvernements de protection tarifaire. Il utilise également ses pouvoirs pour abolir les taxes sur la circulation des marchandises, payer peu d'impôts, accaparer les terres et les eaux des communautés, et enfin pour introduire des machines étrangères sans aucun problème et ainsi changer les méthodes.
Donc, ce qui aboutit justement, c'est toute cette transformation à la révolution mexicaine qui va...
Okay.
Les anciens haciendas, Morelos
était la troisième région à niveau de productivité mondiale derrière Hawaï et Puerto Rico, au niveau productivité par hectare, je veux dire, c'est sûr que le Brésil produisait beaucoup plus de sucre.
Mais après la révolution, on a brûlé tous les ingénios,
et c'est justement là la réponse des paysans face à cette modernisation si importante qui a eu lieu justement dans cette région de Chalco et de Morelos. Donc je vais m'arrêter là parce que je vois que le temps coule. Tout simplement, pour vous dire qu'en 1870, la production totale de canne à sucre n'atteignait pas 10 000 tonnes. En 1900, elle dépassait les 50 000 tonnes. Donc le renouveau technologique joue un rôle important dans cette augmentation. Mais justement, face à cette augmentation importante pendant le porfiriato,
la réponse sociale
des travailleurs et des peones des haciendas
va être justement ce type de...
Les anciens haciendas sucrières de Morelos, ils sont maintenant des espaces plutôt brûlés par les haciendas, par les peones, et dont la révolution a renversé toute cette essor de la production.
Donc je m'arrête là, je vous remercie beaucoup.